Prophétise, ma sœur. Prophétise, mon frère. Prophétise sans relâche. Prophétise, même si tu as l'impression de jeter ta parole à la surface d'une vallée où sont déposés des ossements desséchés. Prophétise, fils d'homme. Prophétise, fille d'homme. Prophétise à outrance. Prophétise sans relâche, sans lassitude. Oui, peut-être auras-tu le sentiment de jeter ton pain à la surface des eaux, mais avec le temps, tu le retrouveras. Évidemment, prophétiser semble être un geste d'autrefois, une attitude surannée, et nous nous sentons bien désemparés pour être aujourd'hui prophètes. Surtout dans un contexte où la loi de 1905 semble nous dire que c'est une activité réservée aux lieux de culte. Mais qu'est-ce que prophétiser à vrai dire ? Sinon, dire la vérité. Et comment pourrions-nous nous reprocher de dire la vérité ? La vérité, rien de moins que la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate à Jésus qu'il était sur le point de condamner. Eh bien, peut-être, la vérité, est-ce l'art du prophète ? Tout simplement, décrire le monde tel qu'il est, dire la vérité d'une situation, sans détour, sans déni, mais aussi proclamer l'espérance que contient ce présent. C'est à la fois parler d'aujourd'hui, en disant la situation telle qu'elle est, et parler de demain, en révélant toutes les potentialités de la situation présente. C'est à la fois Vendredi Saint et dimanche de Pâques. C'est à la fois la mort et la résurrection. C'est à la fois l'horreur de la crucifixion de l'innocent et en même temps cette promesse du tombeau vide parce que le vivant est à chercher parmi les vivants. Et aujourd'hui, en faisant preuve de lucidité, il nous faut ouvrir les yeux une fois encore sur notre monde, sur notre situation, et ne pas être loin de cette vallée où sont les ossements desséchés. Aujourd'hui encore, le texte biblique porte un regard froid sur l'actualité. L'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, met l'homme biblique face à la vérité la plus crue, et souvent la vérité la plus crue et la plus cruelle. Cette vérité tient tout à la fois dans la vision de cette vallée d'ossements desséchés et dans la fracture d'un peuple dont il est question dans la deuxième partie de ce récit. Et c'est précisément cette année la réalité de notre Pâque. C'est à la fois les images insupportables et les récits atroces qui nous viennent d'Ukraine, où les corps sont profanés, les chairs souillées de multiples manières, et l'abomination s'ajoute à l'abomination. Là-bas, comme en d'autres lieux, l'humanité est en quelque sorte vidée de sa substance, jusqu'au creux des ossements qui sont asséchés de leur moelle. Des corps parfois disloqués, il ne reste que des ossements desséchés. Il n'y a dans tout cela rien d'autre que la banalité du mal qui ne fait pas de quartier. Mais c'est notre présent, c'est notre actualité. À cette réalité qui gît au-delà de nos frontières politiques, s'ajoute bizarrement, dans une sorte de clin d'œil biblique, la réalité d'une société française particulièrement fracturée. Et souvent, la réalité dépasse le texte biblique. Elle n'est pas simplement fracturée entre un nord et un sud, Israël et Juda. Elle n'est pas même fracturée entre deux blocs, la gauche et la droite. Elle est fracturée de multiples fractures ouvertes, entre partisans de divers candidats, de divers partis, les deux ne se recoupant pas nécessairement, de divers avis sur l'attitude à adopter pour le deuxième tour des élections, sans qu'il soit évident que tout cela fasse de très bons Français. La vérité de Dieu qui s'exprime chez Ézéchiel est une vérité de surplomb qui observe les uns et les autres. La vérité de Dieu est une vérité qui tient ensemble les deux situations. Et pour ce qui concerne la fracture nationale, c'est une vérité qui ne prend pas parti pour l'un contre l'autre, mais qui réunit tout ensemble. La vérité de Dieu ne consiste pas à dire si Juda a raison contre Israël, ou l'inverse. La vérité de Dieu consiste à dire la réalité ultime, c'est-à-dire une vérité par-delà les clivages, par-delà les vérités partielles, souvent partiales, parce que la vérité de Dieu est universelle. Et c'est cela qui tient à cœur du rédacteur biblique, qui présente un personnage qui doit faire face à une situation étonnamment bouleversante, où il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. La vérité de Dieu est universelle en ce sens qu'elle est une vérité par-delà les vérités politiques, par-delà les vérités historiques, alors qu'à ce moment même de l'histoire du peuple hébreu, il y avait de quoi être dans une attitude profondément idéologique. D'autres textes bibliques en sont les témoins. La vérité de Dieu, la vérité théologique, ne cherche pas à savoir ici qui est le plus légitime sur le plan politique, qui est le plus fondé à recevoir le titre d'Israël. La vérité de Dieu qui est révélée à celui qui est transporté dans cet environnement macabre et funeste concerne l'être profond des personnes et des peuples. Et cette vérité commence par dire la désolation que provoque la mort. Il y a certainement quelque chose de spécifique au regard que les croyants portent sur une situation. Et peut-être, quand nous songeons à la situation internationale, peut-être lorsque nous songeons à notre situation nationale, le regard croyant a quand même ceci de spécifique, c'est qu'il garde le traumatisme du Vendredi Saint. Et il sait tous les risques. Il connaît toutes les menaces que font peser sur l'histoire toutes les postures imprécatives, toutes les postures radicalisées. Parce qu'il sait que cela peut conduire soit à la vallée d'ossements desséchés, soit à la fracturation du peuple. C'est la raison pour laquelle le regard croyant n'est pas partisan, mais il est animé d'une profondeur de champ qui pense déjà au coup suivant. Il fonde en quelque sorte une éthique qui pense à la réversibilité des choses. Une situation irréversible, c'est le Vendredi Saint sans l'espérance de Pâques. C'est en quelque sorte la politique de la terre brûlée. Et cela ne correspond pas vraiment à la perspective biblique qui considère que Vendredi Saint sans Pâques, c'est la plongée dans le Shéol sans espoir de retour vers les vivants. Et d'un autre côté, il n'y a pas non plus de Pâques sans le Vendredi Saint, sans quoi ce serait une théologie de la gloire, une théologie du surhomme, une théologie de la pureté, une théologie qui n'a rien à voir avec notre histoire humaine. Ainsi, la vérité théologique commence par dire la désolation que provoque la mort, parce que la mort est toujours un scandale, et ce qui est mortifère est proprement scandaleux. Comme le remarquait autrefois, je dis autrefois, c'était il y a quelques années, André Gounel, Jésus ne meurt pas sur la croix avec la tranquillité de Socrate buvant sa ciguë. Il y a une sorte de cri qui déchire l'espace. Et même le voile du temple s'en retrouvera déchiré. Car la mort reste affreuse, scandaleuse, dans tous les cas. Ainsi, la vérité théologique ne cache rien de l'horreur, car il n'y a pas de vie sérieuse sans intégrer la réalité de la mort et de ce qui tue. Il n'y a pas de vie possible sans intégrer cette réalité mortelle et ce qui est mortel aussi bien au plan individuel qu'au niveau d'une société. Mais la vérité théologique s'intéresse aux victimes, à ceux qui souffrent, à ceux qui meurent, à ceux qui sont empêchés de vivre, et cela sans égard pour quelque considération économique que ce soit, sans égard pour les questions d'orgueil. L'humanité est observée par Dieu sans être mise en balance avec des intérêts financiers ou des aspects matériels ou des positions dans la société. La profondeur du regard du croyant tient justement à l'avenir des plus fragiles. Qu'adviendra-t-il des plus faibles, des plus fragiles d'entre nous, de ceux qui sont menacés ? Quand Dieu demande de prophétiser, c'est d'abord pour dire cette vérité divine dont il est question. Et c'est cette vérité divine qu'il faut prophétiser, c'est-à-dire rendre disponible à tout un chacun. Alors qu'il y a un peuple épuisé, vidé de sa substance, alors qu'il y a une nation fracturée, il est demandé à un homme de prophétiser, de dire ces vérités qui dépassent largement ce que chacun peut penser et dire dans son coin. Pouvoir penser tout ensemble, pouvoir penser au loin et aux proches, pouvoir penser les amis et les ennemis, les alliés et les opposants. C'est à un fils d'homme que Dieu s'adresse, expression qui, je vous le rappelle, signifie tout simplement un être humain, un être pétri d'humanité, un être comme vous et moi, ni plus ni moins, mais qui a chevillé au corps la grandeur et la fragilité de l'humanité. Alors, il y a certes le Vendredi Saint, mais il y a aussi Pâques. Et prophétiser, c'est non seulement dire cette vérité du présent, mais c'est aussi dire les potentialités de l'avenir. Et ces potentialités, ici, sont de deux ordres. L'espérance de la vie qui l'emporte et l'espérance de l'unité. Alors, c'est cela qu'il nous faut entendre pour notre Pâques 2022. Ce fils d'homme, cet humain, est appelé à s'adresser au peuple exténué pour qu'il devienne vivant. Curieusement, notre traducteur Louis II a fait des revivre, a fait des remontées, mais dans notre texte hébreu, il n'est que question de vivre, il n'est que question de monter, sans idée de recommencement. Il n'est pas question d'une sorte d'éternel recommencement, d'un retour au point zéro. Il s'agit de pouvoir faire quelque chose de ce qui nous arrive, de pouvoir le métamorphoser. Et au fond, nous l'avons bien entendu dans ce texte biblique, cette vallée d'ossements desséchés n'est pas à prendre au sens littéral du terme, car dans la deuxième partie, nous entendons que c'est le peuple qui se considère comme un tas d'ossements desséchés. C'est donc une hyperbole. Le Fils d'homme qui est appelé à s'adresser au peuple exténué pour qu'il redevienne vivant ou pour qu'il devienne vivant d'une autre manière, va donc prophétiser, voici ce qui arrive. Tout d'abord, les ossements se rapprochent, puis les nerfs poussent, qui permettront une sensibilité à la vie. Ensuite, la chair, c'est-à-dire avoir de la consistance. Et enfin, la peau, ce qui donne forme à notre vie. Cette image de faire société est particulièrement intéressante. Ne pas se jouer les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, se rapprocher, les ossements desséchés se rapprochent. Puis, c'est la question de la sensibilité des nerfs qui est évoquée, pouvoir être sensible à la fragilité, pouvoir être sensible au sort de l'autre, pouvoir commencer à être empathique. Et puis, la chair, la consistance, avoir des convictions, ne pas être simplement un fétu de paille qui sera ballotté par le cours des circonstances. Et enfin, cette peau qui nous donne forme, qui nous donne aussi la capacité d'aller vers l'autre. Un visage qui nous permet d'être en relation avec celui qui se tient là, celui que nous n'avons pas forcément choisi, mais celui que Dieu met sur notre route. Et puis le souffle, l'esprit, pour que les êtres ne soient pas simplement des machines animées, mais qu'ils aient une intériorité. Et s'il est évident que le rédacteur biblique n'avait pas du tout cela en tête, moi, j'ajouterais que ce souffle qui s'infiltre en nous devrait faire de nous des êtres sacrément gonflés. un peu d'audace ne nous fera jamais de mal. Que nous dit ce texte ? Il nous dit que, contre les apparences, la vérité de Dieu est que ce peuple exsangue a un avenir. La force de l'Empire, l'Empire babylonien, n'a pas le dernier mot de l'histoire de ce peuple qui vaut infiniment plus que le déferlement de violence qui a pu s'abattre sur lui. Jérusalem a été détruite, et en Ukraine, il y aura bien des villes détruites, soyons-en sûrs. Une partie de la population a été tuée, une autre déportée, elle est en exil. Eh bien, le verset 9 indique que l'Esprit de Dieu souffle sur ses morts. Et en fait, les morts dont il est question, c'est un euphémisme dans nos traductions françaises. Ce sont ceux qui ont été assassinés, ce sont ceux qui ont été massacrés. Harag. Ce peuple qu'on massacre peut monter du tombeau à ciel ouvert dans lequel il a été terrassé. Parce que la prophétie consiste à dire la valeur infinie de ces personnes qui ont été comme écrasées, réduites à rien, mais dont la dignité n'a pas été égratignée aux yeux de Dieu. Prophétiser, mes frères et sœurs, c'est dire qu'il n'est pas humain de vivre dans un tombeau. Et parce que nous, nous avons des nerfs, nous ne devrions jamais nous habituer à ce que des êtres soient condamnés à vivre dans les décombres ou dans les tombeaux. Il convient donc de prophétiser pour que la vie monte hors des tombeaux, comme ce fut le cas à Pâques d'ailleurs, car il n'est pas humain de laisser la vie dans les tombeaux. Prophétiser de sorte que nous ne cherchions pas la vie parmi les morts, que nous ne fassions pas de la mort notre centre de gravité ou la banalité de notre vie, la normalité de notre vie, la règle de notre vie. La règle, c'est Pâques. Pâques est le nouveau canon de l'écriture biblique pour les chrétiens. Comme cela sera indiqué aux disciples de Jésus au matin de Pâques et que ce sera ensuite retranscrit dans nos textes fondateurs. Nous ne devrions jamais nous habituer à ce que quiconque soit réduit à n'être qu'un tas d'ossements et que son quotidien ne soit pas autre chose que la vue d'un tombeau. Contre les apparences d'une société irrémédiablement fracturée, Ézéchiel propose un geste prophétique, c'est-à-dire montrer la réalité de la vérité de Dieu qui transcende les visions étriquées de la vie avec un geste visible de tous. Ici, le geste est symbolique au sens où il rassemble les fragments épars de la société qui s'estiment incapables de vivre ensemble, incapables de connaître la moindre fraternité. Les anathèmes fusent. C'est à celui qui jettera le plus grand discrédit possible sur autrui. Et pensons aux conséquences que cela a sur la suite de l'histoire. Comment pouvoir encore vivre avec quelqu'un que l'on a conspué ? Comment est-il possible de faire encore société avec quelqu'un sur lequel on a jeté l'anathème ? Les frustrations et les rancœurs font grossir le flot des paroles et des actes qui vont à l'encontre de la fraternité. Mais il faudrait résister à cela. Le geste prophétique de ce fils d'homme vient justement couper court à ce désir de fonder notre identité sur le dos de l'autre, à exister contre autrui. Et je ne le rappellerai jamais suffisamment, c'est un travers auquel nous n'avons pas échappé dans notre histoire. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les protestants ont cessé de dire qui ils étaient en disant qu'ils n'étaient pas des catholiques. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'ils ont commencé à avoir une identité positive, à dire ce qu'ils étaient pour eux-mêmes et non pas contre autrui. Ils ont une église, nous aurons un temple. Ils ont une eucharistie, nous aurons une scène. Ils ont un prêtre, nous aurons un pasteur. Ce temps a été métamorphosé. Eh bien, c'est le même genre de métamorphose qu'il nous faut prendre à notre compte aujourd'hui encore, dans un contexte qui n'est plus les guerres de religion, qui n'est plus les guerres de clochers, mais qui ne sont pas moins violentes, à vrai dire. Le geste prophétique de ce fils d'homme, de cette personne pétrie d'humanité, consiste à dire l'unité de la nation, par-delà tout ce qui divise. Eh bien voilà ce qu'il nous appartient de prophétiser aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, si votre enfant apprend à marcher dans le temple, il n'y a rien de plus heureux. Laissez-le gambader. Au lieu de proférer des propos partisans, le Fils d'homme prophétise des propos qui ont un caractère universel. Après avoir annoncé ce que nous pourrions appeler la résurrection du peuple, il proclame la résurrection de la nation, du corps social dont les membres étaient en conflit. Ici, la grâce divine transcende les sectarismes en forgeant une fraternité par le haut. En Dieu, nous découvrons que ce qui nous unit est supérieur à ce qui nous oppose. Les frères ennemis que sont Israël et Juda, ennemis qu'ils étaient, ennemis qu'ils entendent continuer à être, tout en étant frères, eh bien, ces ennemis-là sont appelés à retrouver l'unité, ou plus exactement à la trouver. Aujourd'hui, concrètement, cela signifie que l'Église a une responsabilité de premier ordre. Nous avons ici même, en ce lieu, une responsabilité de premier ordre, une responsabilité prophétique, qui n'est pas simplement de proclamer la grâce, mais de l'incarner et de la rendre vivable pour tout un chacun. Et que cela ne soit pas une parole en l'air, que cela soit bien une parole prophétique. Disons-le très clairement, et bienvenue ici même, et le sera toujours, celui qui dimanche prochain votera ou ne votera pas. Celui qui votera pour l'un ou qui votera pour l'autre. Celui qui n'a pas encore les idées très claires et celui qui depuis toujours sait ce que sera son choix. Car chacun est bienvenu ici, quelle que soit sa trajectoire, quelles que soient ses dispositions intérieures, et quoi qu'on dise de lui. La grâce divine transcende nos regards habitués à ne voir que le semblable. C'est la raison pour laquelle ici, nous pouvons accepter le dissemblable, le divergent, l'opposé. Il est évident que tous les choix ne se valent pas. Mais il est évident aussi qu'en ce lieu, la grâce reste toujours disponible. La prière reste toujours possible. Et il est toujours possible de se replacer devant Dieu pour retrouver le goût de l'infini et le goût de l'universel. Prophétiser, c'est donc proclamer cette double espérance contenue dans ce chapitre d'Ézéchiel. Proclamer la résurrection des personnes qui ont perdu tout espoir, ces personnes qui ont peut-être le sentiment d'être arrivées au bout de leur vie. Et peut-être d'ailleurs, est-ce votre cas ? Car il n'est pas besoin d'aller au-delà des frontières, au-delà des mers, pour sentir parfois ce découragement intérieur, ce renoncement possible, tant la vie est difficile, tant elle est compliquée, tant elle semble insurmontable. Prophétiser pour faire monter les gens hors de leur tombeau. Voilà notre responsabilité d'ores et déjà. Et leur permettre de vivre, enfin. Faire souffler l'Esprit de Dieu pour redonner de la consistance à ceux qui n'en ont plus. À ceux qui se sentent peut-être complètement transparents, parce que totalement vidés, à sec. Retrouver un peu ce geste du début de la Bible dans le livre de la Genèse, ce dynamisme créateur où Dieu souffle pour animer les êtres et leur permettre de vivre au large. Et puis prophétiser, c'est proclamer la résurrection des peuples quand ceux-ci sont divisés, déchirés par des conflits qu'ils ne parviennent plus à surmonter, des conflits qui font qu'ils n'arrivent même plus à se reconnaître comme membres d'une même humanité. L'unité peut être ressuscitée quand l'Esprit de Dieu souffle. Cet esprit qui, je vous le rappelle, selon les mots de l'apôtre Paul, est un esprit d'adoption. qui nous apprend à crier « Abba, Père ». Ce savoir ainsi lié par une fraternité qui ne tient pas simplement à la gentillesse que l'autre témoigne à mon endroit, qui ne tient pas simplement au bon vouloir de l'un ou à la sympathie de l'autre, mais une fraternité qui consiste à éprouver cette solidarité qu'il y a indéniablement entre toi et moi. Prophétiser, prophétiser, je le dirais bien avec les mots du psalmiste, c'est faire entendre que pour Dieu, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses. Amen.